Je tremble, je pleurais sans pouvoir m'arrêter, et maintenant je sens cette tension dans tous mes muscles, cette pression constante, cette détresse qui s'échappe des pores de ma peau. La jungle, le microcosme de ce que nous sommes, la miniature de la société humaine, les plus belles choses au monde qui côtoient les choses les plus vilaines, celles dont on aime se cacher. Mais tous ces gens, ces visages que je vois passer devant moi, qui me saluent, qui me sourient, qui cachent leurs histoires, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Où vont-ils? La jungle est le paradis de l'errance. Des gens marchent sur le chemin des dunes comme des fantômes sans nom. Malik vient du Soudan, du Darfour. Il vient de la tribu Zagawa. Il est assez petit, il a un visage d'enfant, avec des yeux profonds, un sourire tellement pur. Il étudiait la biologie moléculaire au Soudan, mais à cause du régime génocidaire d'Omar el-Béchir, il a dû tout abandonner. Il est venu en bateau. Lui aussi a été récupéré par un bateau plus gros. Lui aussi a marché à travers l'Italie, s'est caché des forces de l'ordre. Lui aussi s'est caché dans les toilettes pour éviter de se faire repérer. Lui aussi a dû adopter des habitudes de hors-la-loi, de repris de justice, alors qu'il n'a rien fait. Ceux qui sont en faute, c'est nous, c'est l'Europe. Laisser des gens vivre si mal, sans aucun espoir, aucune certitude, aucun réconfort, ça, c'est moralement répréhensible. Mais Malik, qu'a-t-il fait de répréhensible? Est-ce un crime de vouloir vivre? N'est-ce pas ce que toute personne sensée et dotée d'un instinct de survie ferait, fuir? Les juger, les réprimer, pourquoi? Alors que nous serions les premiers à tout quitter pour trouver refuge et sécurité ailleurs. Nassim, il a 16 ans. Il vient du Darfour au Soudan. Son œil gauche est recouvert d'un pansement blanc. Il m'a dit que c'était la police. Avec son anglais limité, je n'ai pas pu en savoir davantage. Ce matin, je le vois, je discute avec lui. Je lui demande d'où il vient, où est sa famille. Et alors qu'il me répond que sa famille est restée là-bas, au Darfour, je vois une larme couler dessous son pansement. Sa voix tremble, ses mains aussi. Dans quelle détresse abyssale se trouve-t-il? Dans quelle solitude terrible? La guerre a commencé quand il avait 3 ans, il ne connaît que la guerre. Je ne comprends pas ce monde. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Il devrait connaître ce que je connais, l'insouciance, la sécurité, l'abondance, mais non. Rien de tout ça ne fait partie de sa courte vie. Et maintenant, en Europe, l'Eldorado, au milieu des rats et des déchets, seul, mineur, dans quelle situation le laisse-t-on, nous, Européens? Qui sommes-nous, pauvres, privilégiés, inconscients du monde qui nous entoure et dont nous sommes responsables, pour le laisser sous sa bâche à attendre des jours meilleurs? Il est tellement frêle. Quand je le vois marcher vers moi, éborgné, seul, il a 16 ans, putain. Voilà, ça c'est ce que j'ai écrit l'un des premiers jours dans la jungle.
On sent qu'il y a une arrivée, puis que l'arrivée, l'atterrissage, il se fait évidemment en catastrophe.
Ah ouais.
Parce qu'on est tout d'un coup brutalement témoin de trucs qu'on aimerait pouvoir ignorer et qu'il ne faut certainement pas ignorer, justement.
Exactement, ouais. Mon arrivée dans la jungle, elle était très brutale. C'était très brutal.
Est-ce qu'on arrive d'une certaine manière après à métaboliser ça, en faire quelque chose? Enfin, tu en as d'ores et déjà fait quelque chose puisque tu écris. Mais comment est-ce qu'au début, est-ce qu'on se sent pas emporté dans une sorte de vague entre l'absurde et puis le terriblement triste, tellement c'est des situations inimaginables pour nous?
Alors en fait, je pense que emporter, après, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Hein. Mais disons que mon ressenti sur la question, je dirais pas emporté, je dirais que j'ai été complètement submergée. Il y avait plus que ça pendant 3 mois. C'est comme si j'avais plus d'existence en dehors de la jungle quasiment. C'était assez fou et je dois même avouer que je pense que ça a fait peur à pas mal de membres de ma famille qui ont senti que je m'éloignais considérablement. Et que je parlais pas, je m'exprimais pas, je communiquais pas avec l'autre, avec les autres. Et ça, c'est vrai que je m'en suis rendu compte en fait en sortant, parce que la première fois que j'ai retrouvé mon appartement à Genève, j'avais la sincère impression de ne pas connaître l'endroit où j'étais. Je voyais ma chambre, je voyais mon salon, je voyais ma cuisine, et je c'est comme si je comprenais pas où j'étais, tellement j'avais comme oublié qu'il y avait quelque chose en dehors de la jungle. J'étais vraiment... J'ai été happée. C'est vraiment le mot.
Et ça, tu lui expliques comment? Ce que je veux dire par là, c'est que j'imagine qu'il y a une telle sensation d'injustice qui a dû surgir comme ça, comme une espèce de cascade, qu'à un moment donné, on a presque envie de dire, pour reprendre le vieil adage, hein, j'y suis, j'y reste, je bougerai plus de là tant que ça n'aura pas changé. C'est ça qui t'habite à ce moment-là? Et qui te rend finalement tout le reste du monde un peu étranger à son tour?
Disons que je pense que ça a été très inconscient de ma part. Je ne me suis pas levée un matin en me disant bon, on va faire comme ça, etc. Mais je pense que très inconsciemment, cette manière que j'ai eue de me couper du reste du monde et d'être vraiment intégralement engagée dans la jungle, c'était une manière de me protéger. Parce que c'était trop clivant. J'étais en France, dans un pays riche. Dans un pays développé, comme on dit, et j'étais au milieu de rats de la taille de mon avant-bras, avec des bâches trouées et non étanches, des gens qui sont là depuis des mois ou plus d'une année et qui sont juste en train de dépérir. Et je crois que si j'avais essayé de garder trop de distance, si j'avais essayé de trop me rattacher à l'extérieur, j'aurais pas réussi à gérer parce que c'était. J'aurais trop vu la différence. Là, j'étais vraiment dans la jungle. Et je pense que c'est ça qui m'a permis de tenir d'une certaine manière. C'est vraiment d'être là, d'être à 100% là et pas ailleurs.
De partager une condition finalement.
Et puis voilà, aussi, du coup, en fait, le fait d'avoir pu, complètement partager leurs conditions et de vraiment passer de longs moments avec eux en vivant de la manière qu'ils avaient de vivre, ça m'a aussi beaucoup apporté parce que ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et ça m'a beaucoup appris sur l'injustice dont ils étaient victimes aussi.
Alors là, je pense tu vas continuer, puis nous, du coup, ça va nous renseigner sur l'évolution des rapports aux choses, des rapports aux gens
Ouais.
que tu vas nous énoncer. Mais je crois que Natacha va intervenir.
J'ai une petite question parce que ça me rappelle des choses. Donc, tu m'as dit tout à l'heure ton âge et donc moi j'ai juste à peu près 25 à 30 ans de plus et je me souviens que quand j'avais 22 ans, j'ai rencontré des SDF à Berlin avec des amis et on leur a dit bon bah au lieu de rester là dans une grande ville dans des conditions qui sont pas faciles, le froid, les bouches de métro, la mendicité, puisque vous vivez dans la précarité. Pourquoi vous ne partez pas? Donc eux étaient quand même allemands, donc ils avaient des papiers, ça fait aussi une grande différence. Et donc ils nous ont répondu en mode, mais c'est facile pour vous, vous venez à Berlin, vous avez vos études payées par papa et maman, et vous descendez de votre petit nuage bourgeois et vous nous donnez des bons conseils, mais est-ce que l'une d'entre vous serait capable de partir avec nous? Et on est rentré ce soir-là avec mon ami et on a décidé de partir avec eux. Et ce qu'on a fait pendant un an, donc du stop Berlin, Irlande. Et on a vécu avec les mêmes conditions, dans les mêmes conditions qu'eux. Mais des années après, en parlant à des anthropologues et des ethnologues, il y a cette question aussi, est-ce qu'on est capable, en rentrant dans un lieu comme ça, de réfléchir sur la récursivité et sur le fait qu'on partage la même condition, mais en même temps, on a la possibilité de s'en retirer tout le temps. Moi, ça générait beaucoup de culpabilité aussi, mais ça générait aussi des rapports très étranges entre nous, c'est-à-dire, voilà, moi j'avais quand même un diplôme, des capacités, et du coup on n'était pas égaux dans cette condition, et c'était quand même encore une douleur supplémentaire, parce qu'elle venait se rajouter à une certaine culpabilité, mais en même temps, comment est-ce qu'on en sort? C'est toujours des questions que personnellement, moi, je me pose.
Bah ouais, comment est-ce qu'on en sort? Ça c'est moi je suis arrivée à la conclusion que j'en sortirais pas. Parce que j'ai pas envie d'en sortir. Mais disons que c'est surtout parce que j'ai pas envie d'en sortir. Mais c'est aussi parce que je peux pas en sortir. C'est-à-dire que je peux pas faire comme si tout ça n'existait pas. C'est pas imaginable. J'ai beaucoup de gens qui me disent ah mais qu'est-ce que t'es forte alors c'est vraiment génial. Je pourrais pas faire ça parce que je suis pas assez fort, assez vigoureux ou je sais pas quoi. Mais je pense que si vraiment la force était quelque part, ce serait dans le fait de me retirer complètement de ça et de réussir à faire comme si de rien n'était, réussir à mettre ça de côté Et je suis absolument incapable de faire ça. Maintenant, ça fait partie de ma vie. Et je peux faire n'importe quoi, j'arriverai jamais à le faire sortir.
J'avais envie aussi, pour revenir à ce que tu disais, Natacha, c'est également comment est-ce qu'on y entre? Parce que c'est vrai que là, en l'occurrence, vous étiez deux étudiantes en pleine forme, a priori, mais parce que c'est vrai que c'est souvent des situations qui succèdent à un moment de crise, en tout cas, à une blessure. Ce qui fait qu'au moment où déjà on y entre, dans cette situation compliquée, on n'y arrive pas dans les meilleures conditions. On y arrive parce qu'on est déjà à moitié démoli, souvent broyé par les choses de la vie. Et donc, du coup, c'est vrai que même par rapport à la situation de départ, n'est pas égal ou égaux, ne sont pas égaux, les personnes qui vont même partager pendant un long moment cette condition-là, tout en, effectivement, comme tu l'as très bien dit, tout en sachant qu'on peut s'en retirer, mais même l'entrée en matière, elle est pas la même,
Bah
puisqu'elle n'est pas dans les mêmes conditions de blessure. Hein, mais voilà. Est-ce que tu veux, du coup, continuer
Bah ouais, bah,
voilà.
du coup, ça lit bien en fait ce qu'on disait, hein, parce que donc ça, c'est quelque chose que j'ai écrit le 31 juillet 2016, à la fin de mon premier mois, de mon largement premier mois et demi dans la jungle. C'est court, hein, j'étais très fatiguée et totalement désespérée quand j'écrivais ça. Et j'ai dit, je ne suis jamais seule avec moi-même, je suis toujours en train de faire quelque chose, et quand je ne fais rien, je pense à ce que je dois faire après. Je suis là dans mon lit et je réfléchis à plein de choses, mais je ne sais déjà plus quoi écrire. Ma tête est si pleine qu'il n'y a plus rien à dire. Rien à dire. La jungle, que dire? Que dire de cette jungle bien plus belle et bien plus laide que tout ce à quoi je m'attendais en arrivant ici? Cette jungle qui m'a happée tout entière, corps et âme, tête et cœur. Cette jungle que j'aime et que je déteste, dont j'ai peur et dans laquelle je me sens pourtant tellement en confiance. Je n'en ressortirai jamais. Voilà. Et après, je suis allée me
Effectivement,
coucher.
effectivement, ça illustre le propos que vous venez de dire. Quand les mots se taisent, hein, tellement, là tu parlais d'être submergé.
Mais ça, c'est ce que je te disais une fois en off, entre guillemets. Que je te disais que j'avais l'impression de ne rien avoir écrit. J'avais l'impression que je n'avais strictement rien écrit parce que systématiquement, quand je rentrais chez moi, j'étais absolument morte de fatigue et j'arrivais pas à réfléchir. Il n'y avait rien qui me venait. Ce que j'avais vécu dans la journée me revenait en boucle, les bons moments comme les mauvais. Mais c'est comme si j'arrivais rien à tirer de ça. J'avais aucune réflexivité sur la journée, quoi. C'était des flashs. Il y avait des flashs tout le temps qui me venaient. Et pendant la nuit, franchement, c'était assez infernal parce que j'étais dans la jungle toute la journée. Et la nuit, je rêvais de la jungle. Donc je n'en sortais littéralement jamais. Et en fait, je suis rentrée à Genève et je me suis rendu compte que j'avais des pages et des pages d'écrits. Comme si quelqu'un les avait écrits à ma place. Et je me retrouve maintenant avec 30 000 mots, avec 39 pages. Et j'ai l'impression de ne pas savoir comment ça se fait d'avoir tout ça. Parce que moi, à chaque fois que je rentrais, j'avais l'impression que je prenais une douche et que je m'effondrais, quoi. Donc, c'est assez étonnant, quoi.
Alors, comment est-ce que se produit une rencontre dans un tel contexte? Et puis, a fortiori, comment est-ce qu'une amitié, des amitiés naissent dans un recoin que l'on pourrait, j'imagine, qui est lu par plein de personnes comme le bout du monde, quoi?
Bon alors la rencontre elle est très individuelle, hein. Je veux dire chaque personne qui était dans la jungle avait une raison particulière d'y être, une chronologie particulière, une histoire particulière, des blessures particulières. Les gens se ressemblent pas, ils ont des histoires qui diffèrent de l'un à l'autre. Disons que bon, moi j'ai eu la chance d'avoir accès à eux dans tellement de contextes différents parce que je travaillais dans une association dont le but était de donner des biens de première nécessité, donc que ce soit des vêtements ou alors des biens pour l'hygiène, des rasoirs, des savons, etc. Et là c'était vraiment un rapport déjà très expéditif parce qu'il demande quelque chose, je vais le chercher, je lui donne, il dit merci et il s'en va. Donc il n'y avait pas de véritable échange. Et puis, parfois aussi très difficile, parce que c'est vraiment un contexte où il y a celui qui demande et celui qui donne. Et dans ce cadre-là, c'est très difficile, voire complètement impossible de tisser des liens, parce que on n'est pas sur un pied d'égalité, il y a une hiérarchie. Moi, je suis celle qui a, et toi, tu es celui qui n'a pas, et moi, je vais te donner. Donc, parfois, c'est dans ce cadre-là, c'est avec cette association, que j'ai vécu des moments très, très forts, parce que très, très durs, en me faisant hurler dessus parfois par des réfugiés qui n'en peuvent plus et qui me disent, mais écoute, pourquoi est-ce que tu veux pas me donner ce que je te demande? Et il y avait beaucoup de raisons de ne pas leur donner, soit parce que simplement on n'avait pas, et que ben, dans ce cas-là, on ne peut pas l'inventer. Et ce qui était difficile avec ça, c'est que parfois ils ne nous croient pas, ce que je peux comprendre, parce qu'ils n'ont aucune raison de nous croire. Ils se sont déjà fait. On leur a déjà
Bien
menti dans
sûr,
tellement
bien
de
sûr.
cadres différents, à tellement de reprises différentes, que si j'étais à leur place, je ne ferais pas confiance non plus. Mais bon. Quand on n'avait pas, on n'avait pas, et on leur disait. Et il y en a qui disaient, ok, c'est pas grave, je reviendrai demain. Puis il y en a qui disaient, non, t'es une menteuse, donne-moi ce que je veux. Et ça, c'était difficile à surmonter, à expérimenter. Et puis sinon, il y avait aussi simplement le. Il y avait des situations assez drôles, hein. Moi, j'essayais d'être le plus ouverte possible et le plus compréhensif possible. Et du coup, j'arrivais souvent à tourner des situations qui, à la base, sont vraiment faites de tensions. En rigolade, on rigolait ensemble. Par exemple, quand je donnais un rasoir et que je disais c'est un rasoir par personne parce qu'on n'en a pas beaucoup, j'en donne un à quelqu'un, puis il cache le rasoir derrière son dos, puis il montre l'autre main. Bah, moi, plutôt que de hurler et de dire t'es vraiment malhonnête, bah, je rigolais, je disais mais arrête, je t'ai vu. Et après, dans ce cadre-là, on arrivait à échanger un petit peu, puis à discuter et à rigoler ensemble. Mais c'est vrai que bon, avec cette association, les rapports étaient difficiles. Après, il y a eu d'autres rapports. J'ai été dans les écoles, dans deux écoles différentes pour donner des cours de français et d'anglais. J'ai fait aussi la Croix-Rouge française avec Family Links, où là, c'était très personnalisé, avec des entretiens qui duraient parfois 1 heure, 2 heures. Et puis j'ai été aussi simplement en tant que personne, hein, pas en tant que. Pas avec le statut de bénévole, mais avec le statut de moi, Mao, avec des gens avec qui j'ai tissé des liens.
Est-ce que justement, quand on déambule comme ça dans ces conditions-là, et qu'on rencontre un petit peu par accident finalement les personnes, est-ce que tu t'es senti un peu tout le temps sur tes gardes? Est-ce que tu as dû te sentir sur tes gardes? Est-ce que tu as dû souvent désamorcer des situations? Ou est-ce que assez rapidement finalement on trouve finalement d'une certaine manière sa place à l'intérieur
Alors,
de la jungle?
non, on trouve sa place dans la jungle. Moi, en tout cas, moi, j'ai trouvé la mienne. Au fil des semaines, j'avais une place qui commençait à être bien définie pour tout le monde. Mon association, elle était extrêmement connue dans la jungle. C'était l'une des plus grosses, des plus importantes. Et donc, beaucoup de gens y venaient et donc beaucoup de gens me connaissaient. Donc quand je passais dans la jungle, on m'appelait par mon prénom, je connaissais beaucoup de monde différent, à beaucoup d'endroits différents, que j'allais visiter, chez qui j'allais boire le thé, etc. J'avais vraiment une place très intéressante parce que justement ça m'a ouvert beaucoup d'opportunités.
Et puis au travers de ces balades, de ces errances, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut les appeler, de ces rencontres, quelle est la température que l'on ressent à l'intérieur? Est-ce qu'il y a effectivement beaucoup d'anxiété qui est présente, qui est prégnante? Je veux dire, parce que les gens ne savent pas de quoi leur lendemain sera fait, mais ne savent pas même leur immédiat de quoi il est fait, puisque j'imagine qu'on est tout le temps un petit peu à la recherche d'une denrée, d'un médicament, d'un habit, ou même d'un mode de distraction, parce que les journées doivent être longues. Alors, quels sont les sentiments comme ça qui, comme une sorte de brume, de nuage suspendu, régnait à l'intérieur de la jungle de Calais, selon toi?
Alors, bon, moi j'ai ressenti beaucoup d'angoisse, ça c'est sûr, hein.
Ok.
Un angoisse qui monte avec le temps, parce que plus le temps passait, plus la jungle était proche du démantèlement. Il y avait beaucoup de rumeurs qui couraient, il y avait vraiment. Il y avait une espèce de menace un peu constante
Comme une épée de Damoclès, tu veux dire, qui peut
vraiment
s'abattre
comme
à
une
tout
épée
moment.
de Damoclès, exactement, ouais, comme une épée de Damoclès. Je pense que les personnes qui vivaient dans la jungle, ils ont largement eu le temps de s'habituer au manque, à tous les types de manque. Le manque purement matériel, j'ai pas d'eau, j'ai pas de douche, j'ai pas de lit, j'ai pas de vêtements, j'ai pas de papier. Ça, c'est un manque qui fait juste partie de leur vie, qui fait partie de leur quotidien. Je pense que la plupart y étaient habitués. Je me souviens que quand moi, je m'insurgeais de tout ça, que je disais, mais c'est pas possible que vous viviez dans des endroits pareils, je suis tellement désolée. Il me disait, mais ça c'est rien, ça c'est pas grave, t'aurais dû voir comment on vivait en Libye ou chez nous, c'est pas grave. Et moi j'étais toujours extrêmement touchée de me rendre compte que, en comparaison de ce qu'ils avaient déjà vécu avant, la jungle ça allait encore. Alors que moi je suis en permanence consternée que cette jungle ait existé et puis qu'on y ait mis des gens. Et puis bon, ils se sont habitués au manque aussi affectif parce qu'ils sont tout seuls. Les personnes de leur famille, si encore vivantes, sont loin d'eux, parfois complètement inatteignables, pas de téléphone, pas d'internet, rien, pendant des semaines, pendant des mois ou pendant des années. Et ça, c'est un manque auquel il faut bien s'habituer pour survivre, quoi. Donc ces gens, c'est les personnes que j'ai rencontrées qui vivaient dans la jungle, ben, elles étaient dans une espèce de. Il y avait beaucoup de résignation aussi. On est là et on n'a rien et.
On a perdu le contrôle complètement de sa destinée, d'une certaine
Complètement,
manière, c'est ça.
complètement. Mais il n'y avait pas de conclusion à ça. C'était
Ouais,
juste on n'a
ouais,
rien.
ouais.
Et il n'y avait
Cette
pas
espèce
de.
d'état de latence comme ça. Ouais,
Exactement. C'était
d'accord.
pas. Il n'y avait aucun. Petite morale positive à l'histoire, du genre oui, alors, mais finalement, on va quand même y arriver. Non. C'était. La situation, elle stagnait, mais ils savaient tous qu'elle allait finir par changer, pour le mieux ou pour le pire. Et c'est vrai qu'ils étaient conscients du fait qu'un jour, on allait les déplacer. Soit pour les renvoyer directement chez eux, soit pour les emmener dans d'autres endroits, qu'ils soient mieux ou moins bien, ils savaient pas. Donc ouais, beaucoup d'incertitudes. Ça, c'est relié à l'angoisse, évidemment, mais ouais, beaucoup d'incertitudes.
Un milieu pour le moins anxiogène. Est-ce que tu veux continuer avec le prochain texte?
Ouais, alors bon, je vais rapidement expliquer en fait dans quel cadre je l'ai écrit. Donc ça, je l'ai pas écrit quand j'étais dans la jungle, je l'ai écrit largement après. C'est-à-dire que j'ai dû l'écrire il y a à peu près 3 semaines, à la suite d'un moment privilégié que j'ai passé avec l'un de mes amis soudanais, qui m'a dit une phrase très simple. Il m'a dit, tu me comprends. En fait, il était en train de me remercier. Et je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu me dis merci? Et il m'a dit, bah, parce que tu me comprends. Et j'ai pas su quoi lui répondre sur le moment, mais ça m'est venu après un long texte que je lui ai lu. Donc il a pas tout compris, mais il a compris la majorité de ce que je lui disais. Et il a dit qu'il ferait en sorte de tout comprendre bientôt, donc d'apprendre le français pour pouvoir comprendre exactement tout ce que je dis. Mais donc voilà, c'est ma réponse à cette personne qui est particulièrement importante pour moi et qui a vraiment changé ma vie avec les autres dans les grandes largeurs, quoi. Tu me comprends. Tu m'as dit ça samedi soir. Tu m'as dit ça en me remerciant. Tu me comprends venant de toi, un jeune homme originaire du Soudan, qui a quitté son pays, sa maison et sa famille pour fuir la mort. Non, je ne te comprends pas. Je ne comprends pas la déchirure, celle que tu as ressentie en quittant ta famille et tes amis, quand tu leur as dit au revoir, sans savoir si tu les reverrais un jour. Je ne comprends pas ton angoisse, celle que tu as ressentie quand tu étais chez toi et que tu entendais les bruits des affrontements dehors, celle que tu as ressentie quand tu as vu les soldats prendre les femmes, les emmener loin et les ramener après des minutes qui passent comme des heures, des jours entiers. Celle que tu as ressentie en montant à l'arrière d'une voiture conduite par les passeurs que tu avais payés pour traverser la mer, en te faisant dépouiller de ta nourriture et du peu d'argent qu'il te restait, en montant dans cette embarcation en bois fissuré au milieu de centaines d'autres passagers qui, comme toi, sont terrorisés mais déterminés. Je ne comprends pas l'angoisse que tu as ressentie en arrivant sur les côtes européennes, quand on t'a drogué pour prendre tes empreintes sans résistance et qu'on t'a ensuite jeté en prison. Celle que tu as ressentie en réalisant que c'était ça l'Europe, celle qu'il t'a tant coûté de rejoindre, celle que tu as rejointe au péril de ta propre vie. Cette angoisse que tu as ressentie tous les jours dans la jungle, quand tu avais peur qu'une émeute n'éclate ou qu'un militant d'extrême droite ne te prenne pour cible. L'angoisse, enfin, que tu as ressentie quand on t'a poussé dans ce bus avec une cinquantaine d'autres personnes exilées, qu'on t'a fait asseoir sur un siège bâché et que tu as passé une journée entière à te demander ce qui allait arriver. Je ne comprends pas ta colère, celle que tu as ressentie en voyant que d'autres personnes, tes amis, tes frères, ou même des inconnus, n'ont pas passé les étapes que tu as passées. Ceux qui se sont noyés dans la Méditerranée, ceux qui ont été tués par les passeurs, les femmes qui ont été violées, les enfants qui ont été jetés par-dessus bord. Et puis ceux qui n'ont tout simplement pas eu l'occasion de s'enfuir, qui sont morts chez eux, dans leur maison, leur village, leur région, où plus rien ni personne n'est en sécurité. Je ne comprends pas la colère que tu as dû ressentir en comprenant ce que certaines personnes disent de toi, que tu es un opportuniste, que tu veux les voler, leur prendre ce qu'ils ont, ou pire, les agresser ou les tuer. Je ne comprends pas la colère que t'ont fait ressentir ces gens lorsqu'ils t'ont dit que tu n'étais qu'un terroriste, un être dangereux, à cause de ta religion, du Dieu auquel tu crois. Je ne comprends pas ta fatigue, celle que tu ressens depuis toujours peut-être, ou du moins depuis trop longtemps. Celle que tu ressens à cause des soldats qui attaquent ton village, à cause des larmes des gens que tu aimes, à cause des nuits passées à veiller, la peur au ventre, dans l'inquiétude indicible que quelque chose n'arrive. Cette fatigue physique que tu ressens parce que tu dors trop peu et trop mal, que tu manges trop peu et trop mal, que dans la jungle tu respirais les gaz lacrymogènes trop souvent. Et cette fatigue émotionnelle de ressasser ce qui t'a mené jusqu'ici, ce qui t'a poussé à partir et laisser derrière toi tout ce que tu possédais et tout ce que tu aimes. La fatigue émotionnelle de ne jamais savoir de quoi demain sera fait, de n'avoir aucune certitude, de ne même pas savoir si tout ce temps passé à espérer, toute cette énergie dépensée finiront par payer, si tu obtiendras la paix et la protection que tu es venu chercher. Je ne comprends pas l'absence. Cette absence qui a éteint en toi, pour ne pas devenir fou, une partie de ta capacité à ressentir, et qui te fait dire, chaque jour, que la vie est ainsi faite et que personne n'y peut rien. L'absence de tes proches qui te manquent, celle de ton père, de ta mère, de tes frères et sœurs, de tes oncles, tantes et cousins, qui ont formé ensemble ta famille, ta maison et qui ont maintenant disparu. Celle de ceux qui sont morts et qui ne reviendront pas. Celle de ceux qui sont vivants mais que tu ne reverras plus. Celle de ceux que tu reverras peut-être un jour. Et ta propre absence, celle de la personne que tu as été et que tu as perdue sur les chemins de l'exil. Pas après ce que tu as vécu, pas après ce que tu as vu. Pas après les cris, les larmes, les vagues, pas après les morts. Enfin, parmi tant d'autres choses que je ne comprends pas ta détresse. La détresse de voir que tu es seul et qu'autour de toi, on ne comprend pas ton hier, ton aujourd'hui et encore moins ton demain. Celle de réaliser que revenir en arrière est impossible et que ce que tu as laissé derrière toi a disparu pour toujours. Celle de savoir qu'après tout ce que tu as traversé, ce n'est pas encore fini. Non, je ne te comprends pas. Je ne comprends pas ce que tu vis. Je ne comprends pas ce que tu vois. Je ne comprends pas ce que je vois dans tes yeux parce que je ne l'ai jamais vu. Je ne comprends pas ce que tu me dis parce que je ne l'ai jamais entendu. Je ne comprends pas ta vie parce qu'elle n'est pas la mienne. Mais ne pas comprendre ta douleur ne me décourage pas d'essayer et de moins accepter son existence. Je reconnais la déchirure, l'angoisse, la colère, la fatigue, l'absence et la détresse qui te rongent. Je reconnais qu'elles sont pour toi comme des compagnons d'infortune qui te suivent jusque dans tes nuits et les transforment en cauchemars. Je reconnais que c'est avec elles que tu vas devoir vivre. Je ne te comprends pas, mais je reconnais, je respecte et je célèbre ton existence. Je la célèbre aujourd'hui un peu plus qu'hier et un peu moins que demain.